Perles de culture. Découvrez comment les artistes trouvent l'inspiration dans leur propre vie pour créer des œuvres d'exception. Une série au cœur de la création, proposée par Cultura et racontée par David Abiker.
Hunger Games de Suzanne Collins. Nous sommes en 2007, à Newtown, dans le Connecticut. C'est dans cette petite ville tranquille de 27 500 habitants que vit Suzanne Collins. Cette écrivaine de 45 ans est connue dans le milieu de la littérature jeunesse pour sa série Gregor, débutée 4 ans plus tôt. L'histoire d'un jeune New-Yorkais ordinaire qui découvre sous sa ville un monde souterrain peuplé d'animaux géants et d'humains à la peau translucide. Suzanne Collins termine l'écriture du cinquième et dernier volume des aventures de son héros. Encore quelques pages à rédiger et sa saga souterraine sera derrière elle. Que faire ensuite ? L'auteur est à la recherche d'une idée qui lui permettrait de s'adresser à de jeunes adultes. Après une journée passée à son bureau, elle s'allonge sur son lit pour se détendre devant la télé. Télécommande à la main, elle zappe entre les programmes. Sur une chaîne, des candidats s'affrontent dans une féroce compétition de télé-réalité. Sur une autre, des soldats américains se battent sur le sol irakien. Ces deux visions qui se succèdent sur son écran fusionnent dans la tête de Suzanne Collins. Et si elle combinait ces deux univers ? Un divertissement en mondovision conjugué à la sauvagerie du champ de bataille. Soudain, un univers dystopique prend forme. La créatrice imagine dans un futur post-apocalyptique un jeu télévisé où s'affrontent 12 filles et 12 garçons tirés au sort. L'objectif du pouvoir totalitaire en place dans cette partie de l'Amérique du Nord est de mater toute rébellion en contrôlant la population par la terreur. Tout le monde est obligé de regarder en direct la retransmission de ce combat à mort. En effet, les participants ne doivent suivre qu'une seule règle, survivre. Le nom de ce jeu de massacre, Hunger Games, les jeux de la faim. Pour orchestrer ce monde sombre et violent où des adolescents s'entretuent, Suzanne Collins peut s'appuyer sur sa connaissance de la guerre. Elle est en effet la fille d'un officier, historien militaire et docteur en sciences politiques. Dès son plus jeune âge, la vie sous les drapeaux détermine son destin. La famille Collins déménage au gré des affectations du père, Michael, sur des bases américaines, aux États-Unis ou en Europe. Un de ses premiers souvenirs d'enfance, l'entraînement des jeunes officiers de l'académie de West Point, où son père était détaché par l'armée de l'air pour enseigner l'histoire militaire. Chez les Collins, les repas sont toujours l'occasion de rappeler les faits d'armes des aînés. Le grand-père de Suzanne a été gazé pendant la Première Guerre mondiale, et son oncle a été blessé par des éclats d'obus durant la Seconde. En 1968, la guerre ne se déroule pas dans les manuels scolaires. Cette année-là, Michael Collins est appelé à combattre au Vietnam. L'engagement américain est à son paroxysme. 500 000 GIs sont déployés au bout du monde. Pourtant, l'armée américaine s'enlise. Les offensives du Viet Cong font plus de 100 morts par semaine. Chaque jour aux États-Unis, une avalanche de reportages télévisés rend compte de la situation dramatique. Suzanne Collins a 6 ans. Elle habite dans l'Indiana. Jane, sa mère, fait tout pour éviter que ses enfants soient exposés aux images sanglantes du conflit. Elle n'y parvient pas toujours et Suzanne entrevoit la violence de la guerre sur le petit écran. L'absence du père, parti combattre, est une source permanente d'inquiétude pour la fillette. Dans Hunger Games, les familles ne peuvent rien faire quand leurs ados sont sélectionnés pour la compétition mortelle télévisée. Suzanne connaît malheureusement trop bien ce sentiment d'impuissance et d'angoisse. De retour au pays, après une année passée au front, Michael Collins souffre de stress post-traumatique. Suzanne est réveillée la nuit par ses cris et ses cauchemars. En 1974, la famille Collins déménage à Bruxelles, où Michael est stationné. Le week-end, le militaire emmène Cathy, Johnny, Drew et Suzanne, la petite dernière, sur les routes de Belgique et du nord de la France pour visiter les anciens champs de bataille et tous les sites qui rappellent le passé sanglant de la région. Michael Collins a toujours ressenti le besoin d'éduquer ses enfants sur ces périodes sombres de l'histoire. Avec eux, il remonte le fil des événements qui ont précipité les hostilités, décrit les stratégies des forces en présence. La mère de Suzanne lui fait découvrir d'autres histoires, plus anciennes, mais non moins cruelles. Peuplée de dieux et de héros, d'actions légendaires et de luttes funestes, la mythologie grecque est le théâtre de farouches affrontements. Jane Collins raconte notamment à sa fille le mythe de Thésée et du Minotaure. Thésée est un jeune prince d'Athènes qui participe à une loterie qui exige que 7 filles et 7 garçons soient emmenés en Crète et jetés dans un labyrinthe pour être mangés par un monstre au corps d'homme et à la tête de taureau. Si l'on remplace les dédales de la prison du Minotaure par une arène, on retrouve la mécanique d'Hunger Games. Ce n'est évidemment pas un hasard. Au moment de rédiger son roman, Suzanne Collins convoquera ses souvenirs d'enfance. À cette époque, la fillette est aussi marquée par d'autres épopées antiques, comme celle de Spartacus, qu'elle découvre grâce au cinéma. Chaque fois que le long métrage de Stanley Kubrick avec Kirk Douglas dans le rôle de l'esclave devenu gladiateur passe à la télé, son père tire de la bibliothèque les vies parallèles de Plutarque. Il lit à sa fille les passages consacrés au général romain Marcus Crassus et à son combat pour anéantir la rébellion dirigée par Spartacus. Hunger Games est une version moderne des jeux du cirque. Ainsi, les parents de Suzanne Collins transmettent à leur fille des récits dans lesquels des hommes et des femmes forgent leur destin au cœur d'épreuves sanglantes. En Belgique, la réalité est plus forte que la fiction. À côté de la maison bruxelloise des Collins s'étend un champ de coquelicots. Ce paysage offre l'occasion au père de Suzanne de lui réciter « In Flanders Fields », un poème écrit pendant la Première Guerre mondiale par un officier canadien qui adopte le point de vue d'un soldat enterré sous un champ de coquelicots. On peut y entendre notamment ces quelques vers dans leur traduction littérale. Les alouettes, chantant valeureusement encore, sillonnent à peine audibles parmi les canons qui tonnent. Ces braves alouettes rappellent étrangement le Mockingjay, cet oiseau chanteur mutant qui devient le symbole de la révolution dans Hunger Games. À 25 ans, Suzanne Collins arrive à New York pour préparer sa maîtrise en écriture dramatique. Après avoir obtenu son diplôme, elle démarre sa carrière à la télévision en 1991. Elle consacre son temps à l'écriture de scénarios pour des programmes destinés aux enfants et aux adolescents. Encouragée par un ami auteur de romans jeunesse, Collins rédige le premier tome de Gregor. La série aborde déjà des sujets sombres. Guerre biologique, génocide, mort. Pour les scènes de combat et de bataille, Suzanne peut compter sur un expert dans le domaine en la personne de son père. Malheureusement, celui-ci ne lira jamais le résultat. Il meurt avant la sortie du livre en 2003. Dans les ouvrages de Suzanne Collins, l'absence d'un parent est un thème récurrent. Gregor débute par la nostalgie d'un jeune garçon pour un père mystérieusement disparu. Dans Hunger Games, le personnage principal, Katniss Everdeen, devient chef de famille après la disparition de ses parents. Dans sa maison de Newtown, Suzanne Collins affine l'univers d'Hunger Games. Panem est une capitale high-tech d'Amérique du Nord qui contrôle 13 districts. Chaque secteur est spécialisé dans une industrie. Cette organisation est une référence à un jeu de société auquel l'écrivaine jouait plus jeune, un jeu baptisé « Game of the States ». Où chaque État des États-Unis était identifié par ses exportations. Seulement, dans la République de Panem, les habitants sont traités comme des esclaves. Spartacus, le héros dont son père lui vantait les exploits, n'a jamais pu écrire sa version de l'histoire. Ce sont les Romains victorieux qui ont tenu la plume. Avec Hunger Games, Suzanne Collins donne une voix aux rebelles. Réflexion sur la tyrannie et la société du spectacle, Hunger Games parle de politique et de contrôle des masses, confronte les lecteurs à la violence et à l'injustice d'un système. À travers sa trilogie, Suzanne Collins souhaite surtout sensibiliser les adolescents, bombardés d'images violentes, aux horreurs d'un véritable conflit où la mort peut survenir à chaque seconde. En rendant la guerre profondément personnelle, Suzanne Collins oblige son jeune lectorat à réfléchir à son propre rôle de regardeur, parfois détaché et blasé. L'écrivaine prolonge l'œuvre éducative de son père. Suzanne Collins n'écrit pas sur l'adolescence, elle écrit sur la guerre pour les adolescents. Post-scriptum. En 2013, Suzanne Collins a publié un livre intitulé « Une année dans la jungle ». Cet ouvrage illustré raconte à hauteur d'enfant l'année 1968 durant laquelle son père a servi au Vietnam. Elle y évoque avec candeur ses incompréhensions, ses angoisses, ses frayeurs, en voyant à la télévision des corps sans vie de soldats américains, le retour de son papa transformé physiquement et psychologiquement par cette épreuve. « Une année dans la jungle » est certainement l'œuvre la plus autobiographique de Suzanne Collins.
Perles de culture est un podcast Cultura produit par Création Collective. Texte de Julien Bordier, raconté par David Abiker. Rédaction en chef, Éric Leray. Curation, Frédéric Benahim. Réalisation, Léo Gagnon. Générique, Alto Music. Naming et création graphique, St. John's.